Alberto Giacometti, Peter Lindbergh, saisir l'invisible jusqu'au 24 mars à l'Institut Giacometti à Paris. Un partenariat France Culture. Votre soirée sur France Culture. 22h15, son étude est en plein essor. Apprentissage et troubles du cerveau dans Matière à penser. Aujourd'hui, de nombreux progrès accompagnent la compréhension de la schizophrénie, des troubles bipolaires, de la dépression ou de l'autisme. Mais dans les dédales d'une psychiatrie en manque de moyens et de diagnostics pas toujours formulés assez tôt, le paysage s'assombrit. État des lieux, Marion Le Boyer et Pierre Lorca, psychiatres invités de René Friedman. 23h, Paysan, les 4 saisons, LSD, la série documentaire. Qu'est-ce qu'être paysan dans la France d'aujourd'hui ? Contre vents et marées, ils cultivent, élèvent, fabriquent notre nourriture et s'interrogent sur l'avenir de leur métier. Instantané de ces femmes et ces hommes, agriculteurs d'aujourd'hui, LSD dès 23h et sur franceculture.fr. Très belle soirée, tout de suite le journal.
Le journal est présenté par Audrey Dumas.
Bonsoir. Viktor Orban sanctionné après ses propos diffamatoires contre Bruxelles. Le Parti populaire européen suspend la formation du dirigeant hongrois. Dans ce journal également, la crise humanitaire au Mozambique après le passage du cyclone. 300 personnes sont mortes au total. Le Brexit, oui, mais quand ? La première ministre britannique demande son report. Quels sont les nouveaux scénarios possibles ? Sylvain Kahn, géographe et professeur à Sciences Po, est l'invité de ce journal. Le groupe britannique de magasins de bricolage Kingfisher va fermer 11 magasins en France, près de 800 emplois concernés. Explication de Sarah Lemoine. Et puis le procès tapis se poursuit. Appelé à la barre aujourd'hui, Stéphane Richard, le PDG d'Orange. Une audition très attendue. La droite européenne sanctionne Viktor Orban. Elle a décidé aujourd'hui de suspendre le parti du dirigeant hongrois de ses rangs pour une durée indéterminée. Décision du PPE, le Parti populaire européen, après les nombreux dérapages populistes de Viktor Orban contre Bruxelles ou encore l'immigration. Le PPE réunit les formations de droite et de centre-droit de l'Union européenne. Correspondance à Bruxelles de Lakshmi Lotha.
« J'aurais pu partir aujourd'hui », lance Viktor Orban après la réunion du PPE. Le Premier ministre hongrois a finalement accepté la sanction décidée par le groupe, la suspension temporaire de son parti Fidesz. En conférence de presse, le Premier ministre explique fièrement « Nous sommes un parti puissant au sein du PPE, nous avons gagné plusieurs élections, cela aurait été curieux de nous mettre dehors ». Le PPE n'a donc pas opté pour une exclusion définitive, mais une suspension, en attendant que les choses rentrent dans l'ordre. La droite européenne demande notamment le respect de l'état de droit et le retrait de la campagne d'affichage contre le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Viktor Orban ne comprend pas en quoi elle pose problème.
Si ça vous intéresse, je peux vous dire comment on mène une campagne contre quelqu'un. Là, ce n'était pas le cas. Ce serait vraiment différent, croyez-moi.
En plus de la suspension, le PPE a voté la mise en place d'un comité de surveillance. Ce comité rendra un rapport d'ici l'automne pour dire si le parti Fidesz respecte désormais les règles et les valeurs du groupe. J'espère que ces personnes, ces sages, vont s'intéresser aux faits, venir prendre le pouls en Hongrie, voir ce qui se passe vraiment. Je pense que ce rapport sera positif, a conclu très confiant Viktor Orban.
Correspondance à Bruxelles de Lakshmi Lotha. La peine de Radovan Karadzic s'alourdit en appel. La justice internationale le condamne à la prison à vie. En première instance, l'ancien chef politique des Serbes de Bosnie avait été condamné à 40 ans de prison. Il est définitivement jugé coupable de génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité. Des atrocités commises durant la guerre de Bosnie entre 1992 et 1995. Les secours débordés au Mozambique et au Zimbabwe. Des survivants sont toujours réfugiés sur des toits et des arbres. Le dernier bilan fait état de 300 morts en Afrique australe après le passage du cyclone Idai. La pire crise humanitaire dans l'histoire récente du Mozambique, selon la Croix-Rouge. Adrien Barbier est le seul journaliste français sur place à Beira, deuxième ville du Mozambique, détruite à 90%. Il témoigne.
L'œil du cyclone n'est passé qu'à quelques kilomètres du centre-ville, ce qui explique pourquoi la ville a été autant touchée. Et effectivement, la première chose que l'on voit lorsqu'on se rend en ville, ce sont ces monticules sur le bord des routes, ces amas de branches, d'arbres détruits, de tôles, d'objets en tout genre, qui montrent que véritablement l'impact du cyclone a été très important. entre jeudi et dimanche dernier, Béra était complètement coupée du monde. Les routes qui mènent à cette ville ont et sont toujours bloquées par la montée des eaux et ont été en partie détruites. Ce qui s'est passé lundi, c'est que les vols de reconnaissance des humanitaires ont réussi à percevoir qu'il y avait un drame qui se déroulait à quelques kilomètres seulement donc de Béra. C'est des zones rurales qui sont entièrement recouvertes d'eau. Tout le monde reste quand même prudent sur les chiffres, mais il est certain qu'on va retrouver des corps. À chaque fois que je me déplace à l'extérieur, à la rencontre des sinistrés, tout le monde évoque des victimes dans leur entourage. Donc on est quand même face à une situation très sérieuse.
Le bilan pourrait dépasser le millier de morts au Mozambique, selon son président, qui a décrété 3 jours de deuil national. Un bref report du Brexit possible, à condition que les députés britanniques approuvent l'accord de retrait. Voilà ce que propose Donald Tusk après la demande de Theresa May cet après-midi de reporter le divorce de 3 mois. Theresa May qui vient de s'exprimer ce soir déterminée à mener à bien le Brexit. « Nous ne quitterons pas l'Union le 29 mars », a-t-elle dit, comme cela était prévu. Pas de deuxième référendum envisagé non plus. Sa demande de report au 30 juin doit maintenant être acceptée à l'unanimité par les dirigeants des 27. Ils se réunissent demain à Bruxelles pour un sommet. Avec nous pour en parler ce soir, Sylvain Kahn, géographe et professeur à Sciences Po. Bonsoir.
Bonsoir.
Après consultation, Donald Tusk estime donc qu'une courte extension pourrait être acceptée si la Chambre des communes dit oui à l'accord de retrait. Après 2 rejets déjà, cela paraît presque illusoire et on sent de plus en plus de lassitude, d'agacement du côté des négociateurs. L'hypothèse d'un no deal est-elle la plus crédible ce soir ?
Ça ne me paraît pas encore la plus crédible. Elle est certes plus possible qu'il y a une semaine et qu'il y a qu'au mois de janvier. Mais il ne faut pas oublier que l'article 50 et la décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a été rendue récemment indiquent bien que le Royaume-Uni d'abord peut renoncer à l'activation de l'article 50, c'est-à-dire du retrait jusqu'à la dernière minute. Et d'autre part, il peut encore se passer beaucoup de choses en termes de négociations ou de vie politique jusqu'au 29 mars, y compris donc l'adoption par la Chambre des communes du fameux accord qui a été négocié entre l'Union européenne et le gouvernement de Madame May en novembre et décembre dernier.
Alors, la France a pris une position assez ferme hein, face à cette demande de la première ministre britannique. Elle demande une stratégie crédible en vue d'une validation de l'accord de retrait. D'autres États jugent le report trop long. Finalement, est-ce que l'Union européenne ne cherche pas à faire pression sur les Britanniques ?
Disons, on est dans une négociation et dans un rapport de force. Et en l'espèce, le rapport de force n'oppose pas tant l'Union européenne et le Royaume-Uni que l'Union européenne et ceux qui, à l'intérieur de la société britannique, souhaitent que ce traité soit ratifié par le Parlement britannique. Il faut bien voir que, d'abord, il y a 48% des citoyens britanniques qui avaient voté à l'époque contre le Brexit et que ceux-là, dans leur ensemble, sont plutôt pour l'accord de sortie, on va dire pour un Brexit doux, un Brexit soft, un Brexit encadré. Et donc l'Union européenne sait très bien qu'elle peut s'appuyer, si j'ose dire, sur ces personnes-là. Et par ailleurs, dans l'état actuel des choses, le rejet de ce traité d'un Brexit encadré et soft, ou doux si vous préférez, a été rejeté par seulement 75 députés britanniques de la Chambre des communes. Ce qui veut donc dire qu'il y a une minorité, certes, mais une forte minorité au sein du Parlement britannique qui est pour cet accord. Donc en réalité, on voit aujourd'hui une espèce d'alliance tactique entre l'Union européenne, c'est-à-dire les 27 plus la Commission et le Parlement, le gouvernement de Madame May et une minorité, une grosse minorité du Parlement britannique, une grosse minorité de l'opinion publique britannique pour faire en sorte que finalement cet accord puisse être accepté. Donc dans ce cadre, l'Union européenne peut tactiquement dire bah écoutez, on est prêt à accorder un délai supplémentaire à Madame May à la condition que vous nous donniez des certitudes et des garanties sur le fait que vous allez bien finir par voter ou faire ratifier en l'occurrence cet accord.
Alors la Commission européenne s'oppose tout de même à un tel report. Il entraînerait de graves risques juridiques et politiques pour l'UE. Très rapidement, pourquoi ?
Alors attention, c'est pas la Commission qui s'oppose. C'est-à-dire qu'il y a un rapport qui a été fait, une étude si vous voulez, au sein de l'administration qui est la Commission européenne. Et maintenant, cette étude ou ce rapport a été rendu aux commissaires, au collège des commissaires qui sont l'équivalent des ministres. Hein, donc, en l'occurrence, l'étude en question dit bah, le problème, c'est que si jamais on prolongeait même de 3 mois les négociations sur le Brexit, il existerait le risque que les Britanniques doivent revoter ou doivent voter, doivent participer aux élections européennes, ce qui vont avoir lieu là bientôt la dernière semaine de mai.
23-26 mai.
Voilà, ce qui paraîtrait un peu étrange, puisque faire voter les Britanniques pour des députés au Parlement européen alors qu'ils sont sur le point de sortir, effectivement, ça serait, on va dire, un peu orthogonal à ce qui est en train de se passer.
Et déroutant.
Donc, Donc ça, c'est un rapport interne à la Commission. Un rapport interne, il n'est pas secret, si vous voulez. Mais c'est un rapport fait par un certain nombre de hauts fonctionnaires sur le sujet. Ça ne préjuge pas de la décision qui sera prise par la Commission et par le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement.
Merci Sylvain Kahn, géographe et professeur donc à Sciences Po. Près de 800 salariés touchés par la fermeture de 11 magasins Castorama et Brico Dépôt en France. Le groupe britannique de magasins de bricolage auquel ils appartiennent, Kingfisher, juge leur rentabilité insuffisante. Ces enseignes baisseront le rideau entre octobre 2019 et novembre 2020. Les explications de Sarah Lemoine.
D'après les syndicats, la direction a annoncé la fermeture de 11 magasins jugés pas assez rentables. Castorama va payer le plus lourd tribut. 9 magasins vont fermer leurs portes en 2020. Ils sont situés à Hellem, Ponto, Erani, Darnetta, Les Anvilles, Ballainvilliers, Angers, La Défense et le dernier à Paris, dans le 19e arrondissement. Avec à la clé 698 postes supprimés, toujours selon les syndicats. Également dans le viseur, l'enseigne Brico Dépôt avec 2 fermetures de magasins à Flins et Calais, soit 90 postes supprimés. Un coup dur pour les salariés qui subissent déjà un plan de transformation très lourd depuis fin 2017, avec 400 emplois supprimés et la délocalisation en Pologne de certains services comme la comptabilité. Un plan qui n'a pas porté ses fruits et qui va entraîner le départ de la directrice générale du groupe Kingfisher, la Française Véronique Loury.
Les salariés auront une proposition de poste équivalent au sein de ces mêmes enseignes dans le pays, selon la direction. Mais on ne peut pas prendre les gens pour des pions, répond Jean-Paul Gattier de Force Ouvrière. Les gens ont une vie, ils ne sont pas mobiles au gré des besoins. L'âge légal de départ à la retraite ne sera pas modifié dans le cadre de la réforme en cours. C'est ce qu'a assuré le Premier ministre Édouard Philippe cet après-midi. Même si pour lui, la question de savoir s'il faut travailler plus longtemps se pose tout de même, vu le contexte de vieillissement de la population française et du besoin de financement considérable. La ministre de la Santé Agnès Buzyn et le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux ont tous deux évoqué cette possibilité ces derniers jours. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner demande la dissolution de 4 associations qui légitiment selon lui le djihad armé. Parmi ces associations, le centre Zara France dans le Nord, dont les locaux ont déjà été visés par une opération antiterroriste. C'est maintenant à Emmanuel Macron de donner le mot final. Christophe Castaner, très attendu dans sa gestion des manifestations de gilets jaunes samedi partout en France. Pour cette 19e journée de rassemblement, les militaires de la force Sentinelle seront mobilisés de manière renforcée. Ils auront pour mission de sécuriser des bâtiments officiels et autres points fixes, ce qui permettra aux forces de l'ordre de se concentrer sur le maintien de l'ordre, a expliqué le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. De son côté, Édouard Philippe a lui annulé son déplacement en Guyane ce week-end. C'était une audition très attendue dans le procès Tapie. Stéphane Richard, le PDG d'Orange, s'est expliqué devant le tribunal de Paris cet après-midi. Il est soupçonné d'avoir eu un rôle clé dans l'affaire de l'arbitrage controversé entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. Lui assure s'être cantonné à son rôle, celui de directeur de cabinet de l'ex-ministre Christine Lagarde. Florence Turm a suivi cette audience à Paris.
En tant que directeur de cabinet, je n'avais aucun pouvoir décisionnel. Stéphane Richard le dit et le redit tout au long de cette intervention visiblement très préparée. Crâne dégarni, petite lunette ronde d'écailles noires, il commence par le récit de son parcours professionnel, voix posée, discours structuré et synthétique. HEC, ENA, passage par le privé, avant de rejoindre le cabinet de Jean-Louis Borloo, ministre de l'économie et des finances, qui va céder son poste à Christine Lagarde au lendemain des législatives de 2007. Et il se souvient avec précision de ses premiers échanges avec elle sur le sujet lors de vacances écourtées du mois d'août en raison de la crise des subprimes aux États-Unis. Madame Lagarde a toujours été en total accord avec l'idée d'arbitrage, précise Stéphane Richard, et Nicolas Sarkozy interroge la présidente. Stéphane Richard prend son temps, que les choses soient claires, le président de la République ne m'a jamais parlé de ce dossier, ni avant ni après, il détache les syllabes, jamais. Qu'il y ait eu un accord, une lecture politique pour que l'arbitrage soit une opportunité, aucun doute là-dessus, poursuit le prévenu, mais il conteste toute instruction qui aurait pu venir de sa part, et c'est bien là le cœur du dossier. En réalité, il y avait beaucoup d'agacement, une exaspération partagée à tous les étages à Bercy. Le Crédit Lyonnais, c'est le plus grand sinistre bancaire de l'après-guerre, s'indigne le patron d'Orange. Il a coûté 20 milliards d'euros au trésor public. Et moi, en tant que contribuable, ajoute Stéphane Richard, je serais intéressé de savoir combien le consortium de réalisation a payé de frais de défense dans ce dossier. Moi aussi, lance Hervé Temim, l'avocat de Bernard Tapie, et sur sa chaise, l'homme d'affaires qui n'a pas perdu une miette des débats, conclut par un haussement d'épaule et son mot préféré, et voilà.
Récit de Florence Sturm au Palais de Justice de Paris. Le temps demain, le nord-ouest encore chargé de nuages selon les prévisions Météo France. Sur le reste du pays, encore du soleil. Entre 3 et 9 degrés dans le nord-ouest, jusqu'à 18 degrés dans le sud-ouest et de 16 à 20 degrés dans le sud-est.